mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Paul Dubouchet est un ancien maître de conférences en droit public. Il est également un essayiste dans la mouvance du structuralisme. Après sa découverte de la pensée de René Girard, il lui consacre plusieurs livres. En 2015, il publie aux éditions L'Harmattan « Tout comprendre avec René Girard ». Dans cet essai, Paul Dubouchet résume l'ensemble de la vision girardienne. Paul Dubouchet. Girard a proposé une réponse au problème de la violence en réconciliant la science et la religion. En effet, au moins depuis la Renaissance, l'essor des sciences et des techniques n'avait cessé de creuser un fossé de plus en plus profond entre le savoir et la religion, fossé qui devait devenir un véritable gouffre avec tous les positivistes et autres scientistes du XIXe siècle. Dans la première moitié du XXe siècle, devant la redoutable puissance de la raison technico-scientifique, toute réconciliation de la science et de la religion devenait de plus en plus impensable, et plus encore aujourd'hui, après la traversée de la seconde moitié du XXe siècle, qui n'a fait que consacrer la victoire sans partage de la science et de la technique, en même temps que le règne de la violence, reléguant la religion dans un isolement exsangue, ou bien pire, dans un fanatisme sanguinaire. C'est alors que René Girard vint jeter un pavé dans la mare, en réconciliant les valeurs d'explication scientifique et les valeurs de révélation religieuse. Pavé d'autant plus formidable que cette réconciliation, il devait la demander au christianisme, à la Bible et aux évangiles, qui, seuls correctement lus, pouvaient la porter. Et par là, René Girard a vaincu l'incroyance et l'athéisme occidental, qui bien avant la Renaissance, mais surtout après, fut toujours dirigé contre le christianisme, que ce soit avec les Lumières ou avec leurs rejetons athées du XIXe siècle, mais aussi plus grave, au XXe siècle, avec les totalitarismes nazis et communistes, puis avec les démocraties capitalistes et le terrorisme. Dans le domaine religieux comme dans les autres, Girard développe une argumentation logique, sans jamais avoir recours au surnaturel, à la transcendance, ne faisant qu'invoquer des raisons ethnologiques, sociologiques, psychologiques, en un mot anthropologiques, ayant directement prise sur le réel. C'est ainsi qu'il conduit sa lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà ce que René Girard écrit dans « Les origines de la culture », page 270. L'interprétation du mythique suggérée par le biblique et l'évangélique est une hypothèse scientifique à l'évidence, car elle est obtenue par des recoupements qui n'ont rien de religieux entre les textes et les institutions. Fin de citation. D'ailleurs, après s'être demandé si les évangiles n'en savent pas beaucoup plus sur la culture humaine que tout ce que l'anthropologie et la sociologie contemporaine prétendent nous enseigner, Girard répond que les évangiles nous fournissent une clé qui ouvre d'innombrables serrures et transforme radicalement la culture. Ce que recherche Girard dans les Écritures, ce n'est pas la théologie mais l'anthropologie. Ou plutôt, Girard redécouvre, à partir de l'anthropologie, une vraie théologie, alors qu'avant lui, à partir de la théologie, on avait fait bien souvent que découvrir une fausse anthropologie. C'est pourquoi on a pu voir dans la conception de Girard la première théorie réellement athée du religieux et du sacré. Cette affirmation n'est pas fausse, à condition d'ajouter que la conception de Girard est également la première théorie réellement religieuse de l'athéisme et de l'agnosticisme. En effet, lorsque Girard lui-même dit « Il n'y a rien de proprement religieux dans mes travaux », il devrait préciser « Dans mes travaux religieux » et il devrait ajouter « On ne trouve rien de proprement profane dans mes travaux profanes ». Ne pourrait-on dire que Girard fait une lecture profane des textes religieux et une lecture religieuse des textes profanes, ce qui d'ailleurs éclaire admirablement les uns et les autres, peut-être parce qu'ils bénéficient alors d'une lumière inhabituelle. Car pour Girard, la philosophie éternelle, qui se confond avec la religion chrétienne, reste bien l'amour de la sagesse et la recherche de la vérité, l'amour de la raison et de la liberté. À cet égard, nous devons rappeler une petite anecdote. Comme on nous avait demandé un jour ce qu'était pour nous la philosophie du droit, nous avions répondu un peu rapidement par une boutade. la philosophie, c'est la haine de la raison, et le droit, c'est la raison de la haine. Seule la seconde partie de la boutade est exacte, puisque la raison de la haine n'est ici que la lutte de la raison pour venir à bout de la violence. La première partie de la boutade, nous l'avions empruntée à Nietzsche, mais surtout à Heidegger, qui, à la fin de sa vie, continuait à définir la philosophie comme l'amour de la folie, c'est-à-dire, selon Girard, comme l'amour du sacrificiel. À l'enseignement de René Girard, la vraie philosophie serait exactement le contraire de ce que pensait Heidegger. Elle serait encore la recherche de la vérité, l'amour de la raison, c'est-à-dire, pour parler comme Girard, l'amour du non-sacrificiel, la dénonciation du sacrificiel, ce qui est précisément le propre de la religion chrétienne. Cependant, il faut ajouter que cette dénonciation du sacrificiel ne peut être opérée que par une nouvelle rationalité, instruite non plus par la raison technico-scientifique de Descartes et de ses émules, pas davantage par les théologiens, mais par un Clausewitz, théoricien de la guerre. Voici ce qu'écrit Girard dans son dernier livre achevé Clausewitz. « Ce ne sont pas les théologiens qui nous ont mis sur la voie de cette rationalité, mais un stratège en chambre, un théoricien militaire, un écrivain sulfureux. » Mais pour Girard, le modèle irremplaçable de cette nouvelle rationalité reste l'ordre du cœur que Pascal a opposé à l'ordre des raisons pour promouvoir une nouvelle conception de la raison, une raison religieuse, expression qui pourrait faire frémir tous les rationalistes, aussi bien d'ailleurs que les irrationalistes, mais pour des raisons opposées. Si Girard, par ses travaux interdisciplinaires, n'en avait pas montré le bien fondé. Aussi n'est-il pas étonnant qu'à la fin de son introduction à « Achevé Clausewitz », livre qu'il qualifie d'apocalyptique, Girard réaffirme, je cite, « Plus que jamais, j'ai la conviction que l'histoire a un sens, que ce sens est redoutable, mais qu'au lieu du péril, croit aussi ce qui sauve. » Dans le même ouvrage, en effet, Girard ajoute « Plus croit le silence de Dieu, et avec lui le danger d'un accroissement de la violence, plus la sainteté s'impose comme une distance retrouvée avec le divin. Car le silence de Dieu, ou le retrait de Dieu, ou encore la mort de Dieu, n'est que le nouveau visage de la divinité, qui n'est plus une divinité persécutrice, mais le Christ incarné qui vient à son heure, c'est-à-dire l'heure de la fin des religions sacrificielles, c'est-à-dire encore au temps du sacré dévoyé, le Christ qui vient nous apporter le salut qui consiste à l'imiter, c'est-à-dire à imiter la relation de retrait qui le lie à son Père, autrement dit, trouver la bonne distance à Dieu qui sanctifie en rejetant la mauvaise distance de la réciprocité mimétique qui ne fait que sacraliser. Telle est l'explication que Girard donne des deux vers d'Hölderlin, mais au lieu du péril, croit aussi ceux qui sauvent. L'analyse de Girard rend transparent des phénomènes fort différents, qui vont de la littérature, du théâtre, aux mythes et rituels des religions archaïques, puis de ceux-ci au terrorisme actuel, en passant par les sociétés capitalistes aussi bien que par les sociétés totalitaires, par le développement de la philosophie et des sciences humaines, par la genèse des institutions, par l'élaboration, le fonctionnement et l'efficience du droit, du pouvoir et la dialectique de la paix et de la guerre. Si l'on a parfois pu comparer la conception de Girard à un puzzle dont les éléments s'imbriquent parfaitement les uns dans les autres, ne pourrait-on pas la comparer aussi justement au tableau périodique des éléments de Mendeleïev ? En effet, Girard a dressé le tableau périodique de la connaissance de Dieu et de l'homme, dans lequel les éléments chimiques seraient remplacés par ces éléments théologico-anthropologiques. Imitation, désir, désir mimétique, violence, bouc émissaire, persécution, victime, sacrifice, sacré, mythe, rite, institution, droit, politique, guerre. Ainsi, avec Girard, tout est rendu lumineux par une approche objective de la révélation judéo-chrétienne, nous donne un regard lucide sur les sociétés, tant archaïques que modernes, tant sous-développée que surdéveloppée, également sur la situation de l'homme dans le monde et sur son devenir qui lui appartient encore, en grande partie, de décider et de choisir. En maîtrisant mieux le rôle des institutions dans le fonctionnement du droit et du pouvoir, notamment dans les rapports internationaux, dans ce domaine du droit, Girard simplifie tout. Ainsi, sur le problème du droit naturel et de ses rapports avec le droit positif qui a fait couler beaucoup d'encre, Girard apporte une réponse des plus simples. Le droit naturel, c'est la dénonciation de l'inconscient persécuteur et de la violence fondatrice. Et le droit positif, ce n'est pas la négation de cette dénonciation, mais au contraire, la difficile tentative de sa mise en œuvre. Ainsi, pour Girard, le droit naturel, c'est le Christ. Job, qui dans la Bible clame son innocence, ou Antigone, qui, dans la mythologie grecque, n'accepte pas le sacrifice de ses frères, ni la culpabilité de son père. Antigone est la seule à dénoncer la violence du droit, à défendre Édipe. Elle éprouve pour lui cet attachement qui est celui de tout enfant pour son père, sans qu'il soit besoin d'invoquer une essence incestueuse. Girard rejoint donc la tradition, qui fait d'Antigone le symbole même du droit naturel. Mais en plus, il en montre le bien fondé, il la justifie, contre toutes les réserves et les prétentions qui peuvent être faites à son endroit. C'est pourquoi, au sujet de son œuvre, que Girard édifie patiemment, dans une construction aussi harmonieuse qu'imposante, on a pu parler de la cathédrale girardienne, ce qui n'est pas sans évoquer cette même image de la cathédrale, si souvent invoquée pour décrire l'architecture de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Merci de votre écoute, à notre prochaine rencontre.